Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont vous pouvez retrouver les derniers opus dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de goût. Pourquoi ? Eh bien parce que parfois il est difficile de dire à propos de quelque chose « ouais j'aime ou j'aime pas », on est dubitatif. Parfois même, il est très clair qu'on n'accroche pas. Dès le premier visionnage, dès la première écoute, et parfois même dès le début, on se dit « non, c'est pas du tout pour moi ». Et puis parfois, dès le début justement, on relève la tête, on tend l'oreille, et cette semaine, j'ai entendu ça.
La nostalgie, l'enfer miroiter, la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension, saisir ceux qui voient leur foi dénigrer sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuader que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt, personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé.
Alors, il s'appelle Aurel San, peut-être que je ne vous apprends rien. En tout cas, moi, ça m'a fait ma claque de la semaine. On aurait pu vous parler du succès de la haine. Cette année, cette semaine, même toute cette année. Un certain Jean-Marc Morandini, cette semaine, est allé se faire voir dans un quartier populaire de Lyon avec le président du Rassemblement National, président par intérim, puisque le temps que la campagne présidentielle se fasse, eh bien, une certaine Marine Le Pen s'est mise en retrait. Là, du coup, on a le droit à un certain Jordan Bardella. Bien propre sur lui, pas de soucis, pas un cheveu qui dépasse, une façon de tenir le micro qui montre que il connaît très très bien Dalida. L'émission Face à la rue avait déjà permis de mettre justement à la rue un certain Éric Zemmour en octobre à Drancy, encore un représentant de l'extrême droite. Mais il faut dire que cette émission a lieu sur CNews, une chaîne du groupe Canal+, dont les invités des matinales entre avril et juin 2021 étaient à 36% d'extrême droite. Une surreprésentation qui plaît sans doute au propriétaire, un certain monsieur Bolloré. Face à la rue à Lyon, donc, qui était organisée cette semaine par Jean-Marc Morandini, était dans le quartier de la Guillotière. Il a pu se faire grâce à un dispositif policier impressionnant. Mais pourquoi avoir besoin d'un dispositif policier impressionnant ? Écoutons Jean-Marc Morandini.
Bonjour et merci de nous retrouver en direct sur CNews. Nous sommes place de la Guillotière à Lyon avec Jordan Bardella pour ce numéro exceptionnel de Face à la rue. Jordan Bardella, président du Rassemblement National, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être en direct avec nous pour cette émission exceptionnelle. Alors on le dit, on l'entend, on a un vrai comité d'accueil qui a été mis en place, qui est un comité d'accueil qui a été fait à l'appel des Antifas de Lyon, qui ne souhaite pas qu'on aille sur la place. Voilà, qui ne souhaite pas qu'on aille sur la place. On verra tout à l'heure si on peut y aller ou pas. On remercie d'ores et déjà les forces de l'ordre qui sont en nombre.
L'extrême gauche et les antifascistes sont donc mobilisés pour tenter d'empêcher la tenue du meeting à ciel ouvert que constitue l'émission de Jean-Marc Morandini. Meeting qui laisse pour l'instant énormément la parole à des candidats ou des représentants de l'extrême droite. J'en veux pour preuve la connivence de mauvais aloi entre le journaliste et Jordan Bardella. Écoutez.
Qui est un comité d'accueil qui a été fait à l'appel des Antifas de Lyon, qui ne souhaite pas qu'on aille sur la place. Voilà. Qui ne souhaite pas qu'on aille sur la place.
Toujours les mêmes, dit Jordan Bardella à propos des Antifas. Et là, un certain Jean-Marc Morandini répond voilà. La provocation a bien pris, hein. CNews a encore pu se présenter comme victime puisque l'extrême droite n'aurait pas le droit de citer partout. Il faut dire quand même que cette extrême droite, elle propose de favoriser une partie de la population contre une autre, en l'occurrence ceux qui seraient les bons Français et puis les autres. Donc peut-être que c'est un petit revers de bâton. Oui, ils ne sont pas acceptés partout, leurs idées ne sont pas acceptées partout. Ça permet à CNews de faire croire qu'il y a des zones de non-droit en France. L'extrême droite en campagne, ça fait en plus de l'audience, car ce genre de show politique permet de construire l'opinion publique sous couvert d'objectivité journalistique. Jean-Marc Morandini se présente comme journaliste. Il a même sa carte. Il a pourtant toujours fait du spectacle qui exacerbe les passions les plus malsaines en laissant de côté la raison. Nos tripes avant notre cerveau, c'est a priori la marque de fabrique de Jean-Marc Morandini. Hasard du calendrier, le mardi 23 octobre, La Cour d'appel de Paris a confirmé le renvoi en correctionnel de Morandini pour corruption de mineurs, en l'occurrence des propositions sexuelles pour un et un casting à la maison un peu chaud pour l'autre. Bien sûr, Jean-Marc Morandini n'est pas condamné. Cependant, la confirmation de son renvoi en correctionnel laisse à penser qu'il y a au moins la matière à un procès. Et ce n'est pas la seule affaire de mœurs qui le concerne et qui traîne depuis plusieurs années. Son penchant pour les ados de sexe masculin ne décrédibilise pas tout ce qu'il peut penser par ailleurs. Cependant, son bagage télévisuel, sa recherche du scoop et du battage médiatique, le graveleux qui suinte des sujets qu'il abordait déjà dans Tout est possible dans les années 1990 sur TF1, me donne à penser que les faiseurs d'opinion du moment ont un drôle de pédigré. Et ça m'amène à une question. Quelle place donner à ces heures d'antenne où sont dénigrés les étrangers, la gauche, le service public, j'en passais du pire, et tutti quanti dans le passage à l'acte de groupe d'ultra-droite. Quelle place donner à ces heures, à ces journées entières sur certaines chaînes de télévision où sont donc mis en charpie les autres, ceux qui sont différents, ceux qui ne pensent pas que la nation doit être au-dessus de tout. Eh bien, les groupes d'ultra-droite, puisque c'est le vocabulaire du moment, ils sont légion, justement, en ce moment. Et ils sont régulièrement démantelés par les services spécialisés des forces de l'ordre. Cette semaine encore, hasard du calendrier, 13 membres d'un groupe appelé Recolonisation France ont été arrêtés. Parmi eux, plusieurs militaires. Cet ensemble, qui compterait plus d'une centaine de personnes, constituait des antennes régionales de groupes armés en vue de la guerre civile. Le 25 octobre, la première émission Face à la rue permettait à Éric Zemmour de faire son show dans les rues de Drancy. Dans Morandini Live, le 8 novembre, c'est au tour du président de Génération Zemmour, un certain Stanislas Rigaud, de venir baver sur les pas de chez nous au milieu des toxicomanes de la Villette. Au-delà de la volonté de faire de l'audience, le jeu me semble des plus dangereux. Donner toujours la parole à des militants avérés de l'inhumanité qui attisent les peurs et la haine ancestrale envers tous ceux qui sont différents. Ça nous fait quand même risquer les fameux pogroms, les ratonnades et tous les excès d'une foule sans état d'âme. Alors Morandini et consorts sont-ils seulement des irresponsables en mal de profit? Parce que tout ça fait du buzz, tout ça fait du pognon. En tout cas, si ce genre de personnage devient une référence journalistique, je parle de Morandini, comme Zemmour est actuellement certifié figure intellectuelle, sur le marché des sentiments, la haine va encore prendre des points. J'aimerais bien ne pas vivre ça. On aurait pu vous parler également de la mort de dizaines et même de centaines et même de milliers depuis le début de migrants qui se jettent à l'eau littéralement pour essayer de passer d'un côté ou l'autre de la Méditerranée. Et là, c'est d'un côté ou de l'autre de la Manche. Mais on prendra le temps de le faire la semaine prochaine. On aurait pu vous parler également des activités de plein air. Il y a une marche annuelle des familles des victimes contre les impunités le samedi 27 novembre 2021 à Villeurbanne. Oui, parce que des gens sont assassinés par la police, par accident peut-être, parfois les pédigrés justement de ceux qui tabassent, de ceux qui laissent pour mort, eh bien ressemble plutôt à une carte de visite de l'extrême droite, et ouais, on peut le dire. Donc du coup, là, on peut se demander si l'accident était véritablement l'enjeu de la mort de la personne dans un commissariat, dans un fourgon ou ailleurs. Donc il y a une marche annuelle des victimes contre les impunités des violences policières. C'est donc ce samedi, 14h, Lyon-Villeurbanne, le métro Charpennes. Également une manifestation contre l'extrême droite, là c'est à Ménilmontant. L'extrême droite et ses idées. Appel pour une manifestation antiraciste à Paris, à Ménilmontant, aujourd'hui, samedi 27 novembre à 15h. Et si vous êtes allemand, eh bien, il y a une manifestation également à 15h contre les violences faites aux femmes dans le cadre de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes qui avait lieu le 25 novembre. Le rendez-vous est également à 15h à la préfecture. On aurait pu également On va également vous donner l'information à propos du 1er décembre. 1er décembre, 18h30, à la Maison des Citoyens, Citoyennes, place des Comtes du Maine. Accès, vous savez, il faut descendre les escaliers derrière l'arrêt de tram. Et c'est la première porte à droite après les portes automatiques. Donc 18h30, Maison des Citoyens, Citoyennes, une discussion sur l'éventuelle implantation de Amazon dans la Sarthe. Amazon et son monde, hein, les conditions de travail des livreurs, on vous fait pas un dessin. Le gaspillage des produits quand ils sont pas vendus à temps. Amazon, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne nous emmène pas dans du bon côté. En l'occurrence, quand on parle de sobriété, c'est pas du tout pour Amazon. Amazon, faut que t'achètes, achètes, achètes, achètes. Le Black Friday, le Black machin, tout ça. Amazon valide complètement ce genre de journée. Alors du coup, implanter un hangar de chez Amazon dans la Sarthe, ni ici ni ailleurs, si vous voulez en savoir plus, le 1er décembre à 18h30. On aurait pu vous parler de tout ça, mais pour la dernière fois, et oui, on le quittera après, mais ça n'empêchera pas qu'il soit toujours dans notre cœur, on voulait vous parler d'un certain André Gorz. André Gorz, socialiste hétérodoxe et philosophe, poursuivit toute sa vie une quête de l'autonomie du sujet, celui qui est, du verbe être, donc celui qui est du verbe être, soit vous, soit moi, soit lui, enfin tout le monde. Aussi, il écrit contre la technique quand elle a servi. Il écrit contre le capitalisme, puisque ce système économique privilégie le profit aux dépens de la vie. Contre le travail, cette invention du capitalisme industriel qui nous attache à un emploi qui n'a pas forcément de sens, mais donne les revenus nécessaires à l'achat du nécessaire, mais surtout de biens et de services qui compenseront totalement insuffisamment le temps perdu qu'on ne rattrape plus. André Gorz, jusqu'à la fin de sa vie, militera pour que, collectivement, tous les humains réunis en société soient assez libres pour nous organiser en dehors du mythe du travail. Pour la dernière fois, on entendra un extrait de À voix nue, une émission où intervenait André Gorz en 1991.
Comment voulons-nous au mieux organiser le maintien chez eux, dans un contexte social, dans un réseau de relations sociales, des personnes qui ne travaillent plus de façon professionnelle et rémunérée. Si vous répondez avant tout pour créer de l'emploi, nous allons professionnaliser leur prise en charge à domicile, je dis, ça n'est peut-être pas la meilleure solution. Car la meilleure solution, telle qu'elle est expérimentée en Scandinavie et à Berlin-Ouest, c'est de faire prendre en charge les personnes âgées non valides par les personnes âgées valides, qui, elles, ne demandent pas mieux que de trouver une activité d'aide, de soins, de se rendre socialement et individuellement utile en prenant en charge des tiers. C'est bien sûr une activité bénévole, non rémunérée, mais mutualisée à l'échelle nationale. Car la proposition du sénateur des affaires sociales de Berlin tend à dire: toute personne âgée valide prenant en charge à titre bénévole pendant X heures une personne âgée non valide acquiert de ce fait un crédit qui lui donne droit, lorsqu'elle sera non valide elle-même, à un service équivalent. Donc vous avez une mutualisation non monétaire de la prise en charge qui a l'avantage que les personnes qui prennent en charge d'autres ne sont pas des professionnels, que leur activité n'est pas monétarisée et qu'elle échappe au vice profond de la monétarisation, c'est que dès qu'il y a paiement, il y a tendance à vouloir mesurer un rendement. Dès que vous êtes payé pour votre travail, celui qui vous paye voudra obtenir le maximum pour ce qu'il paye. Et vous avez cela dans les hôpitaux, vous l'avez dans l'enseignement, où bien qu'il n'y ait pas une mesure formelle du rendement, il y a une tendance toujours à vouloir accroître le rendement des personnels en place en les mettant sous pression, en économisant sur leurs effectifs et sur leurs salaires. C'est ça le problème. Ce qui détruit le sens profond et de l'activité éducative et de l'activité de soins ou de prise en charge d'autrui.
On retrouve ici les termes gorziens, si j'ose l'adjectif, de l'autonomie et de l'économicisation. Ce phénomène à l'œuvre dans le système capitaliste, ce phénomène qui étend toujours plus les champs de l'activité humaine où seul compte l'efficacité économique. Pour André Gorz, chaque sujet, au sens sartrien, est beaucoup plus qu'une ressource humaine, visant l'obtention d'un revenu. L'humain agit même le plus souvent sans souci de ce que cela rapporte. Seulement, dans le capitalisme, le temps aussi, c'est de l'argent. Et gagner du temps devient un objectif en soi. Les gains de productivité, la mécanisation, ont grignoté petit à petit quantité de travail marchandises disponibles. Selon André Gorz, et donc tout ça a libéré du temps. C'est une catastrophe dans nos sociétés qui sont soumises au mythe du travail, indique-t-il, mais c'est aussi une chance incroyable de faire autrement. Pour André Gorz, déjà, un profond changement culturel devrait avoir lieu. Dans le texte, dans le livre « Misère du présent, richesse du possible » qui date de 1997, on peut lire « Il s'agit tout d'abord de libérer la pensée et l'imagination des lieux communs idéologiques auxquels s'enchaîne le discours social dominant. » Et donc de penser jusqu'à leur terme logique des expériences exemplaires qui explorent effectivement d'autres modes de coopération productive, d'échange, de solidarité, de vie. Il s'agit de faire percevoir l'actuelle société en voie de désintégration du point de vue de la société et de l'économie radicalement autre qui se profile à l'horizon des changements en cours comme leur sens ultime. Cela obligera d'une part à mieux cerner le sens de ces changements et les contours de ceux qui demandent à naître. Et cela obligera d'autre part à comprendre que nous ne vivons pas une crise qui pourrait être résolue par le rétablissement des conditions antérieures, mais une mutation par laquelle le capitalisme détruit lui-même les bases de son existence et produit lui-même les conditions de possibilité de son dépassement. Encore faut-il savoir s'emparer de ces conditions et penser le dépassement en partant de son terme ultime convenable. C'est à la lumière de celui-ci seulement que nous pouvons juger de ce que nous faisons ou omettons de faire. Enfin, il s'agit d'agrandir dans toute la mesure du possible la différence entre société et capitalisme, c'est-à-dire élargir au maximum les espaces et les moyens qui permettent la production de sociétés alternatives, de modes de vie, de coopération et d'activités soustraits aux dispositifs de pouvoir du capital et de l'État. D'élargir au maximum, en d'autres termes, les voies ouvertes à la sortie du capitalisme, comprises au sens d'un exode biblique qui invente ces terres promises chemin faisant. Parce que si l'on compte sur un programme politique, eh bien ça va être un petit peu difficile de laisser de l'autonomie, de la liberté à la population. Croire à la réforme des schémas capitalistes, ou pire, à leur renforcement, n'amèneront que les mêmes conséquences. Dans Métamorphose du travail, en 1988, il avait déjà creusé ce sillon. Il, c'est André Gorz, je lis. « Si les économies de temps de travail ne servent pas à libérer du temps, et si le temps libéré n'est pas celui du libre épanouissement des individualités, alors ces économies de temps de travail sont totalement dépourvues de sens. Si en revanche, on choisit de donner au processus en cours le sens émancipateur qu'ils peuvent avoir, la question des moyens se pose de façon concrète et positive. La question n'est plus celle, impuissante et spéculative, de savoir où nous allons. Si tant est que nous allions quelque part, la question est de savoir comment aller dans le seul sens qui s'offre à nous, si sens il doit y avoir. Et à cette question, on connaît dans son principe la réponse. C'est la réduction programmée par palier sans perte de revenus réels de la durée du travail en conjonction avec un ensemble de politiques d'accompagnement qui permettent à ce temps libéré de devenir pour tous celui du libre épanouissement. Il s'agit en somme de s'emparer des processus en cours pour les orienter dans un sens qui correspond à notre propre pente. Ce sens ne peut en aucun cas s'accomplir tout seul. On en sait la raison. Le développement des forces productives peut par lui-même réduire le volume de travail nécessaire. Il ne peut par lui-même créer les conditions qui feront de cette économie de travail une libération pour tous. L'histoire peut mettre les chances d'une plus grande liberté à notre portée. Mais elle ne peut nous dispenser de nous emparer de ces chances et d'en tirer parti. Nous ne serons pas libérés par un déterminisme matériel et comme à notre insu. Le potentiel de libération qu'un processus contient ne s'actualise que si les hommes s'en emparent pour se faire libre. Le problème est donc par essence politique. La gauche à l'avenir se distinguera principalement de la droite par les buts émancipateurs vers lesquels elle entend guider les changements techniques. Ou, comme l'écrivait Peter Glotz, par sa capacité à arracher une utopie à la technique. Elle se distinguera de la droite par la volonté d'utiliser les économies de temps de travail à des fins sociétales et culturelles, appelée à reléguer les buts économiques au second rang. On retrouve là l'essence du socialisme, tel que nous l'avons défini avec Karl Polanyi, dont nous parlerons dans pas très longtemps, comme subordination des activités économiques à des fins et à des valeurs sociétales. Je reprends la définition. On retrouve là l'essence du socialisme, telle que nous l'avons définie avec Karl Polanyi, comme subordination des activités économiques à des fins et à des valeurs sociétales. Dans cette définition, jamais l'actualité du socialisme n'aura été plus grande. La difficulté, nous l'avons vu, vient que la base de classe traditionnelle de la gauche socialiste a été désintégrée par les mutations en cours et que le lien direct a été rompu entre l'intérêt des travailleurs et leur besoin de société. Mais c'est aussi que ce besoin de société n'a jamais pris la forme que, selon la théorie socialiste, il aurait dû prendre. Les travailleurs avaient un besoin évident d'endiguer la rationalité économique, de soustraire la vente de leur travail aux lois du marché. Il s'agissait là d'un besoin de classe sur la base duquel s'édifiait leur organisation de classe. Mais les limites de celle-ci ont imposé au jeu des mécanismes de marché, n'ont jamais exprimé la conception d'ensemble d'une autre société. Si l'on préfère, la lutte de classe n'a jamais pris la tournure d'une entreprise ouvertement révolutionnaire pour substituer à la non-société capitaliste libérale une société fondée sur l'union et la collaboration volontaire des producteurs. Nous avons vu la raison de ce déficit politique, ou plus exactement, sociétal du mouvement ouvrier. Les moyens de production et l'organisation, qui est aussi une force productive, de la division du travail à l'échelle continentale avaient acquis une nature et une complexité telles qu'il était matériellement impossible que les travailleurs unis se les réapproprient pour les soumettre à leurs fins propres. La lutte de classe, quoique productrice de société, ne pouvait devenir productrice d'une société de producteurs. Ainsi, le fait est que l'économie doit alors devenir une économie socialiste pour André Gorz, pour retrouver un sens au sein de la société humaine. Un programme socialiste déjà édicté en 1974 dans l'article « Partage ou crève » paru dans la revue d'écologie politique Le Sauvage que vous pouvez toujours trouver dans lesauvage.org. Tant qu'on raisonnera, c'est lui qui parle, tant qu'on raisonnera dans les limites de cette civilisation inégalitaire, la croissance apparaîtra à la masse des gens comme la promesse pourtant entièrement illusoire qu'ils cesseront un jour d'être sous-privilégiés, et la non-croissance comme leur condamnation à la médiocrité sans espoir. Aussi, n'est-ce pas tant à la croissance qu'il faut s'attaquer qu'à la mystification qu'elle entretient, à la dynamique des besoins croissants, et surtout frustrée sur laquelle elle repose ? À la compétition qu'elle organise en incitant les individus à vouloir chacun se hisser au-dessus des autres. La devise de cette société pourrait être « Ce qui est bon pour tous ne vaut rien. Tu ne seras respectable que si tu as mieux que les autres. » Or, c'est l'inverse qu'il faut affirmer pour rompre avec l'idéologie de la croissance. Seul est digne de toi ce qui est bon pour tous. Seul mérite d'être produit ce qui ne privilégie ni n'abaisse personne. Nous pouvons être plus heureux avec moins d'opulence, car dans une société sans privilèges, il n'y a pas de pauvres. Essayez d'imaginer une société fondée sur ces critères. La production de tissus pratiquement inusables, de chaussures durant des années, de machines faciles à réparer et capables de fonctionner un siècle. Tout cela est dès à présent à la portée de la technique, de la science, d'eux-mêmes que la multiplication d'installations et de services collectifs, de transport, de blanchissage, etc., dispensant chacun de l'achat de machines coûteuses, fragiles et dévoreuses d'énergie. Imaginez encore que la grande industrie, planifiée centralement, se borne à ne produire que le nécessaire. 4 ou 5 modèles de chaussures et de vêtements qui durent, 3 modèles de voitures robustes et transformables, plus tout ce qu'il faut pour les équipements et services collectifs. C'est impossible en économie de marché, oui. Ce serait le chômage massif, non. La semaine de 20 heures, à condition de changer le système. Ce serait l'uniformité et la grisaille, non. Car imaginez encore ceci. Chaque quartier, chaque commune dispose d'ateliers ouverts nuit et jour, équipés de gammes aussi complètes que possible d'outils et de machines, où les habitants individuellement, collectivement ou en groupe produiront pour eux-mêmes, hors marché, le superflu, seront leurs goûts et leurs désirs. Comme ils ne travailleront que 20 heures par semaine, et peut-être moins, à produire le nécessaire, les adultes auront tout le temps d'apprendre ce que les enfants apprendront de leur côté dès l'école primaire. Travail des tissus, du cuir, du bois, de la pierre, des métaux, électricité, mécanique, céramique, agriculture. C'est une utopie ? c'est peut-être un programme, car cette utopie correspond à la forme la plus avancée, et non la plus frustre, du socialisme. À une société sans bureaucratie, où le marché dépérit, où il y en a assez pour tous, et où les gens sont individuellement et collectivement libres de façonner leur vie, de choisir ce qu'ils veulent faire et avoir en plus du nécessaire. Une société où, comme disait Marx, le libre développement de tous serait à la fois le but et la condition du libre développement de chacun. Un programme paraissant utopique, tant la propagande de la croissance est soutenue, permanente et assénée comme la seule possibilité, le seul possible réellement existant. Tant le monde politique est quasi uniforme dans sa défense du productivisme et du mythe du travail. Seulement pour André Gorz, les qualificatifs dont s'enorgueillissent les partis politiques ne suffisent pas à restituer les valeurs de leur politique, même si certains s'en approchent. Aussi, l'écologie politique est décrite dans les années 80 dans un article repris dans le recueil Ecologica, paru après sa mort, en 2008. Je lis. Le sens fondamental d'une économie, d'une politique éco-sociale, telle qu'on a... Le sens fondamental d'une politique éco-sociale, telle qu'elle a été longuement débattue par les Verts allemands et européens dans les années 80, et telle qu'elle émerge aujourd'hui dans l'économie politique française, est de rétablir politiquement la corrélation entre moins de travail et moins de consommation d'une part, plus d'autonomie et plus de sécurité existentielle d'autre part pour chacun et chacune. Il s'agit autrement dit de garantir institutionnellement aux individus qu'une réduction générale de la durée de travail ouvrira à tous les avantages que chacun pouvait en obtenir jadis pour lui-même. Une vie plus libre, plus détendue, et plus riche. L'auto-limitation se déplace ainsi du niveau du choix individuel au niveau du projet social. La norme du suffisant, faute d'ancrage traditionnel, est à définir politiquement. Sans entrer ici dans le détail de questions que j'ai discutées ailleurs, je rappelle seulement que la politique éco-sociale consiste principalement à rendre la garantie d'un revenu suffisant indépendante de la durée du travail. Et éventuellement du travail lui-même, à redistribuer le travail socialement nécessaire de manière que tout le monde puisse travailler et travailler à la fois mieux et moins, à créer des espaces d'autonomie dans lesquels le temps libéré du travail puisse être employé par les individus à des activités de leur choix, y compris des autoproductions de biens et de services qui réduiront leur dépendance du marché et des prises en charge professionnelles ou administratives et leur permettront de reconstituer un tissu de solidarité et de socialité vécue. Fait de réseaux d'aide mutuelle, d'échanges de services, de coopératives informelles, la libération du temps, la libération du travail hétéronome, fonctionnellement spécialisé, doivent être conçus comme une politique d'ensemble qui demande aussi que l'on repense l'architecture et l'urbanisme, les équipements et services publics, les rapports ville-campagne, de manière à décloisonner les sphères de vie et d'activité, à favoriser les échanges auto-organisés. L'écologie politique fait ainsi des changements écologiquement nécessaires dans la manière de produire et de consommer, le levier de changement normativement souhaitable dans le mode de vie et des relations sociales. La défense du milieu de vie au sens écologique et la reconstitution d'un monde vécu se conditionnent et se soutiennent l'une l'autre. L'une et l'autre exigent que la vie et le milieu de vie soient soustraits à la domination de l'économique, que croissent les sphères d'activité dans lesquelles la rationalité économique ne s'applique pas. L'auto-limitation, donc, comme projet de société. Voilà pourquoi s'est battu toute sa vie André Gorz. Une quantité de travail socialisé pour produire le suffisant et de l'autoproduction pour ce qui apparaît nécessaire à tout un chacun et ce qu'on pourrait considérer, nous, comme du superflu. Quant à l'accumulation, la production pour la production et son gaspillage dans une société hiérarchisée par la possession, eh bien, ça deviendrait de vilains souvenirs. André Gorz travailla pour la réalisation d'une utopie concrète. Ses écrits et sa parole sont toujours accessibles et ses idées encore plus d'actualité. À propos d'actualité, eh bien, il y en aura encore la semaine prochaine. C'est pourquoi je me permets simplement de vous dire allez, au revoir.